Bonjour à tous. Ce matin, nous méditerons sur le besoin des hommes et des femmes de participer à des activités spirituelles, plus ou moins organisées par des gens qui cherchent à nous rapprocher de notre Dieu ou de nous en éloigner. Nous allons faire une première lecture dans le Deutéronome, au chapitre 12, les versets 1 à 3. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donnera la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous avez chassées servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Un petit peu plus loin, Deutéronome, après 1 Roi 12, versets 28 à 33. Pardon. Donc 1 Roi 12, versets 28 à 33. Après avoir demandé conseil, le roi Jéroboam fit deux veaux d'or et dit au peuple : Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifie aux veaux qu'ils avaient faits. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler les parfums. On va lire encore dans 1 Roi 13, les versets 1 à 5. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Le livre du Deutéronome a été écrit par Moïse environ 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'était la fin du séjour du peuple d'Israël dans le désert après avoir été libéré d'une période d'esclavage en Égypte. 40 années de séjour dans les déserts avant l'entrée dans la terre promise, le pays de Canaan. La nouvelle génération, celle qui avait le droit d'aller dans le nouveau pays, devait recevoir des instructions, des ordonnances sur la façon de vivre en gardant à l'esprit que le peuple d'Israël est le peuple choisi par Dieu pour se révéler à tous les hommes. À la lecture de ces deux textes, l'un écrit 1400 ans avant Jésus-Christ, l'autre à peu près 500 ans plus tard, nous apprenons que, en tout lieu et en tout temps, les hommes et les femmes ont besoin d'exprimer cette dimension propre à l'espèce humaine qui est la spiritualité, le domaine de l'âme et de l'esprit. Oui, nous ne sommes pas des bêtes. Manger, Dormir, travailler, s'instruire, se soigner n'est pas suffisant, même si c'est nécessaire pour notre survie au quotidien. Dimanche dernier, François Laugeron, qui nous a apporté le message, nous a parlé d'un de ses entretiens pastoraux avec une jeune personne qui, en apparence, ne manquait de rien. Il disait travail, maison, famille, voiture, tout pour être heureux en apparence. Mais cette personne avait un besoin de rentrer dans cette dimension spirituelle de l'homme. Il lui restait à chercher et trouver un sens à la vie. D'où je viens et où je vais. Trouver un sens à la vie. Ces questions surviennent un jour ou l'autre chez toute personne, quelle que soit l'époque, le contexte socio-économique et familial. L'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, sont des créatures avec une dimension spirituelle. Les Cananéens croyaient que les dieux habitaient les montagnes et les collines. C'est pourquoi ils ont fait des lieux d'adoration qu'ils ont appelés des hauts lieux. Et l'adorateur païen, en fréquentant ces hauts lieux, cherche à s'approcher de ces divinités. Le but de ces pratiques idolâtres était d'assurer la fertilité de la famille, du bétail et l'abondance des récoltes. Les rencontres et les fêtes païennes étaient organisées. Les infrastructures pour accueillir la foule étaient mises en place. La dimension spirituelle, la réflexion sur la place de l'homme dans la nature et dans la société était organisée et orientée et contrôlée par le pouvoir politique de l'époque. Du temps de Jéroboam, notre deuxième lecture de ce matin, après le règne de David et de Salomon sur le peuple d'Israël, le pays a été séparé en deux parties, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Deux pays et donc deux rois, et à l'origine un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Du temps de David et de Salomon, les grands rassemblements festifs et commémoratifs étaient organisés à Jérusalem autour de ce temple majestueux construit par Salomon. Jérusalem était le haut lieu des pratiques spirituelles du peuple d'Israël. Après la séparation et la rivalité entre ces deux pays, Jéroboam estime nécessaire de créer de nouveaux hauts lieux à Bethel et à Dan. Là encore, l'homme construit des infrastructures, aménage des sites, fixe le calendrier des événements festifs à connotation religieuse de manière tout à fait artificielle. L'idée du veau d'or à Bethel et à Dan, le recrutement de fonctionnaires chargés de l'organisation du culte, n'est pas voulu par Dieu. C'est le choix de Jéroboam pour essayer de satisfaire les besoins spirituels de ces sujets. À la lecture de ces deux passages de l'Ancien Testament, nous découvrons que les humains ont besoin de lieux et de temps pour développer leur dimension spirituelle. Nous découvrons également que les dirigeants politiques sont toujours prêts à investir dans des infrastructures qui permettent de détourner, de canaliser, d'orienter et de récupérer la recherche spirituelle des individus. À notre époque, en France en particulier, on cherche à nous enseigner sous prétexte de laïcité que les individus n'ont plus de besoins spirituels. On veut nous détourner de la possibilité de rechercher ce qui est la volonté de Dieu. Pour tous les hommes, on crée toutes sortes de hauts lieux avec leurs divinités païennes et ses pratiques idolâtres. Nous y reviendrons dans la troisième partie de notre message. Mais d'abord, voyons ce que Dieu attend de nous. Le Dieu révélé par la Bible, le Dieu qui a choisi Abraham, le peuple d'Israël et qui a envoyé Jésus son Fils. Ce Dieu veut nous guider dans notre quête de spiritualité et nous amener à découvrir sa volonté pour les hommes. Nous prenons une lecture dans le Deutéronome 5, versets 1 à 15. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à la main forte, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voilà, c'est clair et c'est facile. L'Éternel Dieu est clairement identifié. Il ne s'agit pas d'une divinité quelconque issue de l'imagination de l'homme. Non, c'est le Dieu créateur qui agit sur le cours de l'histoire humaine et en particulier celui qui a permis la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Pour celui ou celle qui reconnaît sa souveraineté et l'accepte librement, parce que chacun est fondamentalement libre de choisir, il n'y a plus de place pour d'autres divinités. Il est le Dieu unique, le seul Dieu de l'univers. Les objets destinés à nous détourner de notre recherche de la vérité et de la volonté de Dieu pour nous n'ont pas lieu d'être. Pour notre pratique spirituelle, notre esprit doit pouvoir se détacher des choses terrestres, éphémères et futiles. Nous n'avons pas à nous prosterner ni à consacrer notre temps libre à l'adoration de symboles ou de divinités produites par les hommes. L'Éternel, notre Dieu, mérite notre crainte et notre respect. Ne pas prendre ni utiliser le nom de l'Éternel en vain, c'est le respecter dans sa dimension de souverain tout-puissant, maître de l'histoire et de nos vies. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui consacrions du temps. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ne soyons pas pharisiens, légalistes. Jésus lui-même n'a pas réprimandé ses disciples qui ont arraché et mangé des épis de blé un jour de sabbat. On va le lire dans Matthieu 12, verset 1 à 8. Matthieu 12, verset 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dans ce commandement, pour le respect du repos du 7e jour, il faut bien comprendre que régulièrement, nous devons arrêter nos activités fatigantes pour prendre du temps pour une activité spirituelle qui consiste, pour résumer, à rechercher la présence de Dieu et discerner sa volonté pour notre vie. Un jour sur sept, c'est probablement un bon rythme. Au début du XXe siècle, la révolution bolchevique chez les Russes a essayé d'instaurer un jour de repos tous les 10 jours. Ça n'a pas fonctionné très longtemps. Nous voilà revenus à un sujet d'actualité, le travail du dimanche, pour ou contre, et en tant que chrétien. Je vous laisse à votre méditation. Dans le passage de Matthieu, Jésus, le Fils de Dieu, nous recommande de nous tenir à distance de l'hypocrisie des pharisiens. Pour ceux et celles qui ont un métier qui exige de travailler le dimanche, l'important est de pouvoir observer un jour de repos décalé, mais régulier, qui nous permet de passer du temps à rechercher la présence et la volonté de Dieu et participer à la construction et à l'avènement de son royaume sur terre. Par contre, l'ouverture, 7 jours sur 7 des activités commerciales, me semble un peu plus sujette à controverse. Cette remarque va nous permettre d'aborder la troisième partie de notre message. Aujourd'hui en France, en Occident, où sont les hauts lieux ? Qui sont les divinités inventées par les hommes destinées à nous détourner de la recherche de l'obéissance à la volonté du Dieu créateur ? Comme nous l'avons constaté au début de notre réflexion, les hauts lieux sont des endroits destinés à recevoir les foules pour une activité à connotation religieuse et à forte tendance païenne. Je vais citer quelques exemples. Ne sont pas exhaustifs. Les stades pour les rencontres sportives ou les grands concerts, où certains individus sont quelquefois admirés et même adorés comme des divinités. Les plages méditerranéennes en été, qui sont les hauts lieux destinés à célébrer le corps et son bronzage ainsi que l'oisiveté. Les événements patriotiques comme les Champs-Élysées, le 14 juillet, destiné à célébrer l'État français et sa puissance militaire. Internet, qui crée des hauts lieux, qui attire des hauts lieux virtuels, qui attire les foules de toute la Terre en accaparant le temps libre des adeptes de Facebook et d'autres réseaux dits sociaux. La liste est longue et chacun pourra trouver d'autres hauts lieux du paganisme, avec chacun ses divinités plus ou moins éphémères. Pour ma part, j'aimerais citer les hauts lieux du commerce où l'on célèbre les dieux du matérialisme et de l'argent. À vrai dire, le sujet de ce message me tient à cœur depuis plusieurs mois. À l'est d'Épinal, depuis 2 à 3 ans, la circulation était très perturbée à cause de travaux presque pharaoniques pour aménager un haut lieu de la consommation, appelé en plus les terres Saint-Jean. Mais que vient faire Saint-Jean ? On aurait pu l'appeler quartier Rothschild ou terre de Mammon. Tout y est. Volonté politique, dépense de l'argent public, réalisation d'infrastructures pour faciliter l'accès des adeptes de la religion de la consommation. Fête de la consommation avec l'arrivée des nouvelles collections, les soldes et surtout les fêtes de fin d'année. Présentation de toutes choses utiles et inutiles destinées à satisfaire les besoins artificiels générés par la publicité et les modes superficiels et éphémères. Le consommateur apporte son argent difficilement gagné, il peut même facilement s'endetter et par conséquent se trouver dans une situation délicate lorsqu'il ne peut plus faire face à ses demandes. Vous aurez compris que dans ces endroits, on célèbre et on adore les dieux du matérialisme, de la consommation et du commerce. Dans 10 jours, nous fêterons comme il se doit la naissance de Jésus à Bethléem dans le dénuement le plus complet. Notre société canalise et détourne notre besoin de spiritualité. La venue de Jésus, Fils de Dieu sur terre, nous révèle la bonté et la bienveillance de Dieu pour les hommes. L'évolution de nos mœurs a fait de cette période un temps fort obligatoire de la consommation et du matérialisme. Comme chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre en marge de la société. Au contraire, Jésus nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde en tout lieu et tout au long de l'année. Soyez néanmoins conscients de la portée de nos actes, même même lorsque nous irons faire nos achats pour Noël. Frères et sœurs, que chacun puisse trouver du temps en cette période de l'Avent pour s'approcher de l'Éternel notre Dieu, afin qu'il puisse nous combler de sa paix et de son amour. Amen.